bienvenue à tous dans cet épisode numéro 2 du podcast Héritage, qui est réalisé en marge de l'exposition qui retrace les 40 ans de l'histoire du rap à Liège. Vous êtes toujours avec Kerr, vous êtes toujours aussi avec Régis et Martha. Et pour cet épisode 2, on avait envie aussi de changer de thématique par rapport à l'autre fois. On était dans l'univers des beatmakers et aujourd'hui, on va aller plutôt dans les diffuseurs des sons, dans l'univers des DJ qui animent les soirées ici à Liège, dans l'univers des DJ qui ont aussi façonné cette culture à Liège et la culture hip-hop en général. Et notre invité du jour, c'est un peu une institution ici à Liège, mais pas que. On peut dire qu'en Belgique, s'il y a bien quelqu'un qui a représenté le DJing depuis day one, depuis 89, c'est notre invité du jour, DJ Sonar. Et comme on n'a pas la chance de recevoir un alter ego qui était prévu aujourd'hui et qui représentait, parce que c'est ça aussi l'idée du podcast, de pouvoir avoir un alter ego qui vient représenter un peu la new school, on a la chance d'être entouré par une pléiade de jeunes ici qui sont des stagiaires. Alors on va donner du respect, on va donner un peu de l'ambiance pour DJ Sonar et on l'applaudit s'il vous plaît.
Yes, yes.
Parce que c'est ça aussi la culture hip-hop, c'est justement donner du respect, c'est retracer des histoires, partager des histoires et écrire l'histoire. Surtout, on le voit avec notamment des émissions, on le voit aussi avec des documentaires qui commencent à arriver, d'autres qui sont prévus. Voilà, donc Sonar, c'est un grand plaisir de te recevoir. Moi, je te connais depuis des années, depuis que je suis ado. Parce qu'on a une histoire en commun.
Bien sûr. Ouais.
Voilà, je voulais savoir un peu comment tu vas aujourd'hui.
Ah, je vais super bien. À l'heure de mes 52 ans, je vais bien.
Bah
je
ouais.
Suis fatigué bien.
Bah, tu le portes bien, frérot, tu vois. Je crois que nous, ouais. On a cette particularité, c'est que
c'est
le
ça.
Temps n'a pas d'effet sur nous.
sur nos sapes aussi.
tout à fait. Et donc, comme je le disais, ouais, c'est une grande histoire, c'est une longue histoire. Les 40 ans là, du hip-hop, je pense que tu en fais pleinement partie depuis le début.
Merci.
Donc, c'est un peu intéressant de retracer un petit peu ton parcours. On pourrait un petit peu. Voir un peu ce qui t'a donné l'envie de devenir DJ et un petit peu que tu situes quand tout ça est arrivé dans ta vie.
85, comment ça s'appelle, Break Machine à la télé. Après, on a tous vu du break, tu vois, ou alors Flashdance, la fameuse partie où il y a It Just Begun de Jimmy Castor Bunch.
Ouais.
La période avec le parapluie et tous ces trucs-là. Et puis après, je suis jeune, tu vois, en 85, puisque, ouais, en 85, j'ai 12 ans. Et puis après, Beastie Boys, Public Enemy, même Sugar Hill Gang un peu avant, tu vois, mais...
Je pense que c'est important de contextualiser aussi le fait que quand tu dis que tu vois Jimmy Castor Bunch ou que tu vois Break Machine, c'est à la télé en fait.
Ouais, c'est à la télé, mais on le voit, il n'y a pas encore de magnétoscope, donc on ne s'est pas enregistré, donc c'est...
On tombe dessus par hasard. Quoi.
C'est tellement bref que ça te marque à vie, quoi. Et t'es obligé de le rester, de le graver dans ta tête pour te rappeler ce qui s'est passé. Et puis après, t'attends. Et puis quand le magnétoscope arrive, tu l'enregistres, tu le regardes une centaine de fois.
Clairement.
Voilà, c'est comme ça, on n'avait pas Internet. Donc,
et ce morceau Break Machine qui est aussi la base de plein de... C'est un peu le centre de formation pour les b-boys, pour les breakers.
Ouais, mais je continue à me documenter. Tu vois, par exemple, j'ai regardé il y a une semaine un documentaire sur YouTube de Sky Channel. C'était avant MTV. Et ils expliquaient... Le Rise, de Def Jam, tous ces labels-là, et ils expliquaient, et là je suis toujours en train de me documenter avant que je sois DJ, parce qu'il y avait quelque chose avant 89, ça a commencé beaucoup avant. Et en 85, j'étais pas pour la culture, j'étais pour regarder des choses qui étaient contre ce que je n'aimais pas, quoi.
Ouais,
tu
vois
ce que je veux dire, donc voilà.
Qui était cool.
Ouais, qui était cool, qui était différente, quoi. Tout le monde avait les longs cheveux, moi je les avais, mais je les ai coupés, tu vois, donc... Et je les ai coupés à cause d'un clip de rap, donc voilà.
Ok, donc là, c'est quoi, t'es adolescent, t'es jeune à ce moment-là?
Ouais, c'est aussi l'époque où ma sœur me prête sa voiture et que je viens à Liège aussi, tu vois. C'est important pour venir dans une vraie ville, entre guillemets.
Mais là, t'as déjà quoi, 18 ans à ce moment-là?
Ouais, le temps de la chapelle, quoi, la fameuse boîte. La chapelle où on se voyait avec tous les autres, Miguane et Fabrice, tout le monde, quoi, Fab. Et... C'est vraiment un mélange de tout. Et puis après, la rencontre aussi avec les Namurois aussi, qui ont été importants. Tu vois, les Namurois ont fait continuer le breakdance en Belgique. Et quand ça s'est arrêté à Bruxelles, entre guillemets, eux ont continué. Et c'est eux qui ont fait vraiment continuer. Et d'ailleurs, ils sont toujours là. Mm-hmm. Ils ont une SBL, ils invitent
Wall
des
style,
gens.
Wall Style, Namur Break Sensation.
C'est ça, Wallonie Style, quoi. Et C'est le fait de plein de choses, de plein de rencontres. En fait, c'était plus l'humain à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on se voyait dans des soirées, c'était une unité. Il y avait les quatre disciplines ensemble, ce qui est de plus en plus difficile maintenant, tu vois. Voilà.
Oui, c'est une époque comme ça qui est construite plus sur des rencontres et du collectif, plus que maintenant qu'il y a, comme je veux dire, les éléments culturels sont plus à la portée de tout le monde. Tout le monde choisit finalement ce qu'il veut faire. Ouais. Nous, on est un peu plus touche à tout. C'est vrai que c'est la différence.
Ouais, c'est ça.
Mais toi, fondamentalement, qu'est-ce qui te pousse à choisir, à t'investir dans le DJing?
En fait, c'est simple. Déjà, quand j'étais petit, on en parlait tout à l'heure, j'allais avec mes parents quand j'avais 10 ans, 8 ans, même avant, dans des discothèques, quoi. Et soit j'étais près du DJ, ou soit j'étais sur la piste de danse, mais généralement, je trouvais que les gens dansaient mal, déjà. Et c'était seulement quand je voyais des afros, entre guillemets, c'est un stéréotype que je dis, mais j'ai un gros souvenir d'avoir vu un Américain qui était venu dans une boîte de nuit où j'avais été avec mes parents, et il avait dansé comme personne. Et je suis resté pendant toute la soirée à le mater.
T'as kiffé la vibe du
DJ. Ouais, c'est ça. Et puis le DJ, pareil, tu vois. Et puis après, évidemment, le point de départ, c'est un DJ de Wii, puisque je suis originaire de la ville de Wii, je suis né là-bas. Et comment il m'a invité chez lui, et il m'a dit, ouais, je vais arriver, je vais faire un truc. Si tu veux, tu peux toucher. Il avait deux platines, une table de mixage rouge. Je m'en rappellerai toujours. Et il avait seulement ce qu'on pouvait se procurer à ce moment-là en vinyle, c'est-à-dire Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys.
Ah ouais, déjà, du lourd.
Ouais, voilà, il avait tout un bac rempli, quoi. Et il m'a laissé toucher. Et moi, dès le départ, après, les vacances sont arrivées, j'ai trouvé un travail comme vendeur de disques dans un magasin de disques. Et puis après, j'ai économisé, j'ai acheté ma paire de platines en 89.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Enfin, même maintenant, comprendre que, en fait, il y a... Tes parents, ils t'amènent dans ce genre d'ambiance, puis tu tombes sur un DJ qui écoute, déjà respecte tes parents, ils t'amènent dans des boîtes où tu as des DJ qui ont du Public Enemy ou du Run DMC, c'est carrément, c'est ouf quoi.
C'était au début de la soirée ça.
Ouais, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je pense fondamentalement, je sais pas si toi tu as vu le documentaire The Sound of Belgium, mais que la Belgique, elle a un rapport particulier avec le DJing, elle a vraiment cette culture du DJing et des dancing, ce qu'on appelait des dancing avant, des discothèques, c'est quelque chose de fondamentalement très belge dès l'après-guerre en fait. Et la mécanisation arrive avec le tourne-disque, les vinyles, etc. Et toi tu te retrouves un peu dans ce genre de soirée, c'est quand même bien pour tomber dans le bain.
Ouais, mais je sortais avant aussi, il y a une grosse période aussi en 89, même si j'ai écouté Public Enemy et Beastie Boys, j'ai écouté de la Newbie, toute la Seed, tu vois.
Ouais.
Et ça c'est une grosse période, je sortais dans des soirées où il y avait 2000 personnes, je me rappelle d'une grosse soirée à Anu, vous avez fait venir Confettis, Amnesia, tous ces groupes-là, et je me rappelle que c'était le temps des Doc Martens, on volait les logos comme les Beastie Boys, on volait
VW, Mercedes.
Tous ces trucs-là, on faisait des rues et on pétait tout et on les revendait, tu vois. Et c'était comme ça, quoi. Et puis après, c'était une culture DJ. J'allais au Dockside aussi, au Real. Le Dockside, il y avait un DJ de malade qui s'appelait DJ Joss.
DJ Joss, ouais.
Pas le DJ Joss de Charleroi, mais un autre.
Un autre,
J'ai toujours des cassettes à lui.
C'est au Real, non? Joss Van Real.
Ouais, mais il y en avait un autre aussi.
C'est des boîtes en Flandre, principalement.
Ouais, c'est ça, en Flandre. On sortait en Flandre, quoi. Ou alors, on allait à la chapelle. Parce que là, il y avait Charles Schilling, il y avait Bernard Dobler.
Ouais.
Qui sont des institutions des pour institutions. La ville de Liège, quoi, pour cette boîte de nuit. Ouais.
Bah, Charles Schilling, il est à Paris, Dobler, il est programmateur, il est responsable Typique, chez Typique.
Ouais, c'est ça.
Voilà, et donc toi, tu achètes tes premières platines en 89, et je crois que c'est pas évident de trouver des platines à ce moment-là.
Ah non, mais je les ai achetées, en fait, j'ai des amis, avant, il y avait de l'armée américaine, je pense qu'il y a encore, mais il y avait l'armée américaine en Allemagne, tu vois. Et en fait, il y avait aussi des casernes belges en Allemagne. Maintenant, c'est terminé depuis que le service militaire est terminé. Et j'ai commencé à chercher. Et un ami avait une carte pour rentrer dans les magasins américains. Et donc, j'y étais. Et quand je suis arrivé, ils avaient une pile de Technics SL 1200.
Wow.
J'en ai acheté deux et je les ai payés les deux pour le prix d'une. Tu vois, déjà, c'était
incroyable.
Une récompense pour nous.
Ça coûtait...
Ouais, c'était 25 000 francs belges, un truc comme ça, pièce, quoi. Je sais plus en Deutschmark, tu vois, mais bref, on est tellement vieux qu'on parle en Deutschmark.
Ouais, c'est ça, on parle en vieille devise, nous.
Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai racheté, et puis après, j'étais chez Fisset, qui existait déjà.
C'est ça.
Qui était le dealer officiel de vinyle, d'aiguilles et de choses comme ça. Je me rappelle, ma mère m'a payé ça. Et puis après, je me suis entraîné chez moi, et ça a commencé comme ça.
C'est vrai que le métier de DJ, là, au début, c'est un métier fort de bricole aussi, parce qu'on n'a pas forcément accès aux pièces de rechange ou aux tables, on va dire, performantes, et surtout dédiées à ce que toi, tu fais déjà, et auquel tu t'investis. Ce n'est pas seulement du mix, c'est aussi du scratch.
Ouais, mais on avait des magasins qui n'existent plus maintenant, mais qui s'appelaient Tandy, Réalistique.
Ouais, grave.
Et c'est là que j'ai acheté ma première table de mixage qui allait à pile, t'imagines. Donc je devais mettre des piles pour pouvoir le mettre, pour pouvoir avoir comme un crossfader, parce que ça existait déjà, mais c'était pas difficile, c'est difficile à obtenir. Ouais. Je mettais ma table dans le sens où je devais scratcher, quoi. Et puis après, Miguan est arrivé avec ses cutters. Ouais. Miguan faisait de l'électricité, ou je sais pas quoi.
Complètement, il avait un interrupteur, lui.
Et on nous avait fait des cutters, quoi, ouais. Et on avait chacun une planche. Je me rappelle, il y avait une planche, il mettait sa platine dessus, il la branchait. Et puis après, ça faisait des cutters. C'est comme ça qu'on a fait dans Fidelo Vinyl les scratchs.
Tout à fait, ouais. Ça, voilà, c'est vraiment en trois.
C'est de la débrouille,
ouais.
Quoi.
Ouais, ouais, complètement.
Il faut être super débrouillard, en fait, du coup, même techniquement, pour faire ça, j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là aussi.
Bah, le manque fait que t'es créatif, quoi.
C'est ça, quand t'as faim, bah, t'es créatif.
En vrai, si t'as vu le reportage sur DJ Mehdi, par exemple, tu vois que lui, il y a un pote qui lui amène le plan de chez Roland pour un sampleur. Mmh. Et il va dans les magasins, comme t'as cité, comme Tandy ou Réalistique, qui sont des fournisseurs de matériel et d'électronique, en fait. Mmh. Et il va commander les pièces et il monte le sampleur. Et là, c'est la même chose. C'est pas faire de fader, ils font des cutters. Donc, c'était vraiment un interrupteur, un switch on-off, qui permettait de couper le son et c'est de pouvoir combiner des scratchs et faire des chirps ou des choses comme ça, des techniques de scratch, parce que t'as pas les tables de mix qui te permettent de faire
ça. Pas comme maintenant, quoi. Maintenant, il y a tout dans une table de mix. Carrément, bientôt, je vais monter un réveil dans le table de mix.
Grave, il y a tout.
Pour
ouais,
te réveiller pendant que tu vas devant.
C'est un air fryer maintenant.
Ouais, c'est ça, voilà, exactement.
Tu peux même mixer sans platine, c'est-à-dire juste avec des logiciels maintenant.
Ouais,
mais ça reviendra mixé, après, parce qu'il y a toute une histoire par rapport à ça. C'est vrai que les débuts technologiques, ils sont quand même de la bricole.
Ouais, ouais.
Mais avec ça, quand même, tu arrives à constituer, toi, une réputation déjà derrière les platines et tout. Est-ce qu'à un moment donné, on continue le parcours, t'intègres les malfrats linguistiques, H-Possi. Voilà, il y a cet historique-là.
Ouais.
Est-ce que là, t'es déjà dédié fort aux soirées, en ce moment-là, ou plutôt sur le... L'aventure de groupe.
En fait, quand j'ai acheté mes platines au début, même avant, on faisait des soirées avec des cassettes. Carrément, on avait des doubles decks, ça s'appelle, où tu pouvais copier des cassettes. Et on t'avais un truc avec des numéros, tu savais mettre l'endroit où ça commençait ou pas, tu vois, tu pointais. Et puis après, tu faisais des mix comme ça, comme tu pouvais. C'était des fondus, on appelle ça, quoi. Ça passait d'une chanson à l'autre, un peu comme un selecta.
Yes.
Comme un Jamaïcain qui passe une chanson après l'autre, tu vois, il parle. Et... On a fait des soirées avant, parce que la première soirée aussi, et ça, je compte le dire, tu vois, je ne suis pas le premier DJ de Liège, entre guillemets. Il y en a eu avant, et je veux faire un props à Cédat.
J'en ai parlé la fois passée de Cédat.
DJ Cédat, c'est le premier DJ hip-hop à Liège, avec la coupe Tower, c'est un Turc. D'ailleurs, son surnom, c'est Turkish Avenger. Et lui, il a sorti des prods, il est connu par les Daft Punk et par tous ces gens-là. Quoi.
On en avait parlé,
c'est
justement.
Ça, quoi. Et il a sorti aussi un album avec un groupe qui s'appelle Charismatique, ici. À Liège, et il y a des chansons comme Ave Marie-Jeanne, des chansons comme ça, tu vois, avec des vrais sons.
Ouais, Charismatique, dont c'est parti aussi Matin.
Paulin. C'était Paulin et un anglophone francophone, anglophone, et le Maj Abdel, quoi.
Ok, ouais.
C'était lui, c'était les trois, quoi. Et donc, après, on a commencé à faire des soirées. La première soirée que j'ai faite, c'est à Oui, puisqu'il fallait que je trouve un endroit. Mm-hmm. Et c'était avec ses dates. C'est Moumouni, mon frère, qui repose en paix, qui avait fait le dessin. On photocopiait des feuilles blanches avec un bête dessin dessus, un prix, une adresse. Mm-hmm. Et c'est tout, quoi. Et on se faisait courser quand on mettait des affiches. On payait à ce moment-là. Tu mettais une affiche,
Ouais, je me rappelle, il y avait une autre soirée à Oui aussi, on était allé. Tu as fait des premiers open mic
pour ton anniversaire.
Ou c'est le quick maintenant.
Ou c'est le quick, ouais.
Là, c'était incroyable.
Où ça a été graffé. Hein.
C'était incroyable.
Ça, c'est un gros souvenir, quoi. Mais après, on a commencé à faire des soirées comme ça. Et moi, je suis toujours comme ça 36 ans après, puisque ça fait 36 ans que je suis DJ. Je suis toujours là pour faire danser les gens. C'est ça mon but, tu vois. Moi, je suis pas un turntabliste, j'ai fait du scratch et tout.
Ouais.
J'en fais toujours. Mais mon but, c'est de donner du plaisir aux gens et de se rappeler et de faire des aventures. Ça s'appelle Classic Adventure, on appelle ça comme ça. C'est Grandmaster Flash qui a inventé ça, quand il fait son truc dans la cuisine avec ses trois platines. Et ça s'appelle The Adventure of Grandmaster Flash, mais on appelle ça Classic Adventure. Et puis de fil en aiguille, après, on rencontre des gens. Parce qu'on est tellement peu, comme dirait des Fidji, tu vois. qui est un des premiers rappeurs aussi belges, il dit on est compris en signe, dans cette ville on est plus de 1000 quoi. Et là maintenant je pense que les anciens, on est redevenus comme ça après quand c'est sorti, tu vois. Je sais pas, mais après voilà, c'est comme ça. C'est une rencontre, comme par exemple aujourd'hui, je rencontre des personnes, on en parle.
Tout à fait.
Je reste pas enfermé à me dire, ouais, moi je suis un vieux, j'en ai rien.
Ouais, ouais, ouais. Un autre rôle aussi du. Enfin, moi je trouve que c'était bien parce que toi, t'avais cette fonction, comme tu dis, il n'y avait pas beaucoup de monde, de faire des soirées pour justement qu'on se retrouve, qu'on écoute des nouveautés, qu'on puisse aussi un peu grandir un peu dans le circuit et on en parlait tout à l'heure, mais convaincre des gens que cette musique, c'est pas juste un truc de sauvage.
Ouais, ouais.
On peut faire confiance, c'est vrai qu'il y a des tags, il y a des trucs, mais ça se passe globalement super bien par rapport à des gens qui faisaient des soirées techno par exemple où c'était beaucoup plus en confiance les organisateurs, etc. Mais il y a un autre rôle aussi que je trouve les DJ, et moi en tout cas ça m'a bien servi, c'est que le DJ il était là pour nous les rappeurs, nous enregistrer des faces B sur des cassettes.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, nous, on n'avait pas le choix. Maintenant, tu tapes type beat, machin, t'as une pléiade, tout ce que tu veux, mais nous, il fallait qu'on trouve un DJ. Et toi, t'as vraiment œuvré sur ça. On peut dire que t'étais au contact de pas mal même de générations de rappeurs, en fait, sur...
Ouais, bien sûr. Bah, les MJ, quoi. On a fait des ateliers à la MJ Pierreuse, Sprimont. J'ai fait plein d'MJ où j'y allais le mercredi avec ma paire de platine. J'apprenais aux jeunes à être DJ.
Ouais.
Et en même temps, il y avait des gens qui voulaient rapper. Donc, ils écrivaient des textes. Et puis après, on mettait la face B, quoi. Comme Ayam l'a fait, tu vois. Il explique bien que la culture européenne, c'est la culture de la face B. Puisqu'on n'avait pas on n'avait pas de matériel. Je me rappelle le jour où Miguan a eu son premier sampler, frère. C'était chez Fred à la basse, là, où il habitait dans un petit rue tout près de...
De Londo.
Non, c'était, tu vois, tout près de la nouvelle piscine, là, tout près de...
Jean Fosse.
Ouais, c'est ça.
Okay, okay.
Dans la toute petite rue, là.
Ok, ouais.
C'est là qu'il a eu. C'est là où il y a la fameuse photo où Acro a dans sa bouche la cassette des Malfrats, tu vois.
Des Malfrats, oui.
C'est ce moment-là. Et la culture de la face B, c'est ça, nous... C'est pour ça que des fois aussi, peut-être que je fais un pont dans maintenant, il y en a plein qui râlent quand ils voient des Américains qui rappent sur leurs paroles, tu vois. Mais c'est parce que nous, on a la culture de la face B. Ils sont pas habitués aux États-Unis, c'était comme ça. Ils sortaient peut-être un maxi avec une instru, et le reste, ils n'avaient pas en instru. Nous, on a commencé par des DAT aussi, tu vois, tous ces trucs-là.
Ouais.
Mais on n'avait pas, et donc la culture de la face B... Comme dit IAM, tu dois l'écouter, la face B. Et c'est ça qui fait que ça a fait développer le rap en général en Europe.
Oui, complètement.
On rappelle sur des face B.
Mais nous, ici à Liège, en fait, t'étais dans ceux chez qui on pouvait aller et repartir avec 60 minutes de son, avec des nouveautés, le tout mixé.
Et j'en fais encore, des fois.
Moi, je me rappelle, tu m'en avais fait une avec Georges, justement, qui sera aussi à l'expo, là.
Ouais, ouais.
Où je suis dans l'avion, je vais en Amérique du Sud, et en fait, pendant le mix, Georges prend le micro et commence à m'insulter en chanson dedans.
Ça ne m'étonne pas.
J'avais le seum au milieu, j'étais au milieu de l'Atlantique en train de me faire saucer.
Tu pouvais rien dire.
Et je pouvais rien dire.
Ça déchire. Ah, trop bien, trop bien.
Ouais, moi, j'avais juste une question pour vous deux, par rapport au rôle des maisons de jeunes à cette époque-là. On ne s'en rend plus compte maintenant, mais est-ce que vous pouvez parler de ça du rôle de ces institutions-là à l'époque pour pratiquer le hip-hop.
Bah toi, t'as vécu plus de trucs avec la Maison des Jeunes du Tir à Liège.
Tir à Liège, Pierreuse, Tir à Liège, sans le Tir à Liège, sans Étienne Droussin, s'il faut le nommer. On n'aurait pas sorti Fidèle au vinyle, c'est lui qui a été cherché. Je sais pas comment ça s'est passé, tu vois, c'est certainement avec ceux qui ont discuté, ou je sais pas, tu vois, ceux qui fait partie du HPOSI, qui est un des fondateurs du HPOSI. Et on allait répéter là-bas, on montait avec le bus, avec Miguan, on avait chacun une platine, un bac de disques, et je peux te dire que ceux qui arrivaient de Bruxelles, tu vois, comme Acro et tout, il arrivait de Bruxelles, il portait le bac de disques, on prenait le bus jusqu'au Laveu, et puis après on montait, et puis après on faisait dans l'autre sens, tu vois, et moi j'habitais à Ouï à ce moment-là, donc on a déjà été aux soirées.
Ouais, c'était des missions.
Puis ouais, c'est des missions, ouais.
C'est un peu les maisons de jeunes, en fait, qui ont vite... développer ça comme offre culturelle parce que c'était fait par les jeunes.
Ouais,
c'était pas un animateur, tu sais, de 35 ans qui venait et qui transmettait un atelier, je sais pas moi, peinture ou quoi. Là, c'était des mecs de 17 à 20 ans qui parlaient à des jeunes de 16 à 20 ans. Donc du coup, c'était intéressant, quoi.
Ouais, les maisons des jeunes ont vite compris que c'était un lien direct, donc une clé pour pouvoir, entre guillemets, canaliser les jeunes et faire autre chose. Quand je regardais, par exemple, le reportage sur Sky News, là, le truc que je vous disais, eh ben, il expliquait déjà que dans les années 80, en fait, le rap a servi à canaliser la jeunesse, c'est-à-dire arrêter de enfin, c'est les États-Unis, tu vois, mais de dealer de la cam, de faire des braquages, des trucs comme ça.
Si pour rester à l'intérieur, quoi.
S'il n'y avait pas eu le rap...
C'est des alternatives.
Ouais, c'est ça. S'il n'y avait pas eu le rap, il y aurait les hécatombes, mec. Franchement, sans déconner. C'est vraiment un truc qui a canalisé tout ça. Et pour en revenir aux Maisons des Jeunes, c'est parce que c'était les seuls endroits où on pouvait avoir un endroit avec de l'électricité, où quand il pleuvait, on pouvait aller, on pouvait brancher ses trucs, et puis on faisait ce qu'on voulait pendant la période où on pouvait, tu vois. Parce que... on cherchait depuis longtemps un corner chill. Je me rappelle que Recto me disait que le corner chill, c'était justement le parc qui est à côté des Chirous, là. Tu vois ?
Place des Carmes.
On se mettait tout le temps là. Ou alors sur Place Cathédrale, mais voilà. Après,
beaucoup Place Cathédrale, Place des Carmes aussi. Et tu sais que Place des Carmes, c'est devenu après, justement, un spot de freestyler.
Ouais, bien sûr,
les
j'en
années
vois, ouais.
2015, à partir de là, il y a une grosse génération.
Absolue,
on fait partie
ça,
Abso et tout.
Ouais, c'est ça.
C'est Place des Carmes, quoi. C'est incroyable, c'est un peu ce lieu à
Justement, là,
à fuser avec
l'expo, ben, la boucle se fait, quoi, parce que c'est juste en face de la place des Carmes. Donc, voilà.
Ouais, c'est incroyable, ça. Régis.
Et ouais. Trop fort.
Mais Jabba a déjà fait une expo là-bas.
Ouais. Même deux, je crois.
Ouais.
Et alors, tu vois, on parlait, donc tu as cette carrière à la fois de DJ qui mixe dans les soirées, et c'est vrai que ça se développe, tu as des liens avec l'Allemagne aussi, qui se développe avec d'autres DJ, avec Hubert, avec Bacchu, pardon.
Bacchu, ouais.
Tu as aussi le truc avec H-Possi, avec Bienvenue.
Ouais.
Est-ce que tu peux un petit peu parler justement de ces moments un peu charnières dans ta carrière, et puis un moment où tu passes vraiment un cap, c'est quand tu prends le relais avec Orichas.
Ouais. Mais en fait, c'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est une histoire de rencontre, quoi. Regarde, si je n'étais pas venu à la chapelle sortir, je n'aurais pas rencontré Miguan, Fabrice et tous les autres. Et puis après, moi, je leur ai fait le lien avec les Namurois, tu vois, on y allait, ils venaient. Et puis après, c'est devenu une petite communauté, comme on dit, entre guillemets. Et puis après, les moments charnières, c'est la sortie du vinyle. On a été au Canada aussi, la première fois qu'on bouge pour aller faire des concerts dans les maisons des jeunes.
Ça aussi, grâce à la maison des jeunes.
Ouais, grâce à Étienne, on est parti faire 4 concerts au Québec.
Et ça, c'est en 1992.
Ouais, 92 ou 93, un truc comme ça. Et puis après, nous, pour faire notre pèlerinage à New York, parce que la Mecque pour nous, c'est New York, on demande à Étienne de faire prolonger nos tickets, que ce soit le JNC et Miguan et moi. Et on part à New York en bus et on arrive en 92-93 quand New York était chaud à fond, qu'il y avait des braquages, qu'il y avait encore un... Tu vois, c'est des moments charnières, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et puis après, l'Allemagne, c'est aussi grâce à Fidèle au Vinyle. Fidèle au Vinyle, on commence à aller vers l'Allemagne. Et il faut se dire que le hip-hop allemand, si je ne me trompe pas, tu vois, peut-être qu'un Allemand pourrait me contredire, mais je pense que c'est né à Cologne, tu vois. Et à Cologne, il y a eu le premier magasin hip-hop qui s'appelait Da Source. Et on va déposer des disques là-bas, et déjà, ils nous les payent. Déjà, mec, nous faire payer des disques alors qu'on les a même pas, tu vois, qu'ils n'auront pas vendus, et nous, on va faire la fête avec ça, tu vois, on rentre bourré, c'est pas grave. Et puis après, ils nous invitent à faire un concert et aller à Viva Freestyle. Donc, il y a une émission super connue, entre guillemets, sur YouTube. Vous regardez Viva Freestyle, H-Possi, Malfra Linguistique.
D'ailleurs, cette émission est disponible sur YouTube.
Voilà, c'est ça. Ouais. Où on voit Monsieur R, qui est parti en France aussi, qui faisait partie des Malfra Linguistiques, Acro, Sug, Ballot, Miguan et moi. Georges tout petit aussi,
Jean-Sian.
Et puis après, on fait une émission, et puis après, ils nous font faire des concerts. Donc c'est là qu'on rencontre Bacchu. Bacchu, c'est un Belge qui était caserné, sa famille était casernée en Allemagne, et lui fait le lien entre nous. Après, il vient mes 20 ans mixer. Et c'est comme ça. Après,
c'est un gros DJ en Allemagne. Okay.
Avec Bruxelles aussi, c'est pareil, parce que nous, quand on quitte Liège, on ne quitte pas la Belgique. C'est pour rigoler des Bruxellois, mais quand ils quittent Bruxelles, ils quittent la Belgique, hein. Ils pensent qu'il n'y a que Bruxelles.
Ouais.
C'est une petite dédicace aux Bruxellois. Bon. Mais c'est comme ça. Et nous, on a toujours été, on a toujours rencontré des gens. Il y a des gens qui ont donné du respect direct. Il y a eu des battles, il y a eu des choses négatives. Et puis après, ça s'est réglé avec l'art, tu vois.
Grave.
Comme Jabba avec Sosie. Il y a eu un rendez-vous Avenue de la Reine où la Zulu Nation, qui existait encore à cette époque-là, a fait un rendez-vous. Les portes ont été fermées. Je peux dire que c'est presque parti en bagarre, tu vois. Et ça s'est réglé. Même ça s'est réglé à la Planète Interdite, qui était le café de sourire.
Sur des freestyles avec
des freestyles,
etc.
Ouais, on a fermé les rideaux et ça s'est réglé avec comme le hip-hop nous a appris, c'est-à-dire transformer les énergies négatives en positives. Et ça s'est réglé aux platines, au graffiti. Enfin, ça s'est réglé comme tout, à la danse, tous ces trucs-là. C'est des époques charnières, quoi.
C'est ça. Mais toi, alors, du coup, comment tu évolues et tout ça dans tes différentes formations
On évolue avec le temps, quoi. Comme maintenant, on parlait d'étapes de mix, on est obligé d'avoir un truc avec plein de lumière. Mm-hmm. J'évolue, c'est comme ça, on évolue avec son temps, mais on essaye toujours d'amener la culture dans ce qu'on fait, quoi. Moi, je préfère, par exemple, parler de la culture que de parler de moi, tu vois.
Oui, carrément, mais en même temps, tu baignes tellement là-dedans que c'est bien de parler de toi parce que c'est aussi inspirant, c'est bien aussi en termes de, je dirais, de travail de mémoire, tu vois, aussi pour voir un peu les gens, ce qu'ils ont à d'autres époques. Enfin, c'est marrant parce qu'on parlait de la bricole, mais il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi comment se maintenir là-dedans. Comment se diversifier ? Et le fait que toi, à un moment donné, tu pars dans une tournée mondiale avec un groupe cubain produit par des Français sur des tournées où tu te retrouves à jouer sur tous les continents, c'est un truc de dingue.
Mais ça, c'est aussi parce que le manager vient de Liège. Tu vois, c'est des rencontres et tout. Et puis, c'est aussi parce que le survivant sort, tu vois. Mm-hmm. Le Starflame survivant sort et qu'on demande à Miguan de le faire et que Miguan est dans l'incapacité de le faire.
Il t'a fait la passe D.
Et c'est ça. Et puis après, moi, mon premier concert, c'est à Amsterdam. Quand je te parle d'Amsterdam, je suis tout vert. Hein. Donc, je peux te dire que je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai fait. Et puis, dans la voiture, en rentrant, ils me demandent de faire la tournée avec eux. Tu vois, c'est comme ça. Et puis après, je tourne 4 ans et demi. Et puis, quand ma fille naît, j'arrête, quoi.
Mm-hmm. Enfin, c'est 4 ans et demi de tournée de dingue avec un groupe qui a des hits mondiaux, qui se retrouvent dans des films.
Ouais, c'est ça. Après, c'est les Chippendales du rap, quoi.
Complètement.
C'est Pinga, Puta et Loka. C'est comme ça que je les appelle. C'est comme ça qu'on les appelait, tu vois, complètement à l'ouest, ils viennent d'arriver, c'est comme si on ouvrait un supermarché à Berlin-Ouest quand ils ouvrent le mur, quand ils arrivent, ils défoncent tout, ils se promènent nus, enfin, ils font des trucs, mon gars, j'ai des vidéos que je peux pas montrer.
Non, mais ça,
c'est ça la vie.
On va revenir sur les platines.
Mais c'est pour te dire que c'est des Cubains, quoi.
Ouais,
les Cubains, ils appellent ça guariro, tu vois. C'est les gens de la campagne.
Oui, c'est des gros kilos, à fond.
Tu vois, c'est ça. Voilà.
Et toi, alors, là-dedans, cette tournée, comment ça se passe ? Alors, du coup, financièrement, ça te stabilise ? T'es dans un bail.
En fait, je suis un peu comme un New Yorkais. C'est-à-dire que quand j'ai de l'argent, je le dépense, quoi. Ouais. Ou j'achète de la sap. Parce que, aussi, il y a cette culture de sap dans le hip-hop qui fait que tu dois être frais tous les jours. Là, j'ai arrêté. Mais avant, c'était une nouvelle paire pratiquement tous les jours. J'ai trop de sap là maintenant, je sais plus rien faire avec.
Grande vie, frère.
Mais c'est ça, tu vois, j'ai tout gardé, quoi. Je suis un archiviste aussi, donc j'ai tout gardé.
Ouais.
Mais c'est j'achète une maison avec la maman de mes enfants.
Ouais.
Et puis après, on achète une maison, et puis après on l'a revendue, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais et puis après, entre temps aussi, quand ils sont en vacances, donc les Cubains, c'est des machines, les Cubains. Tous les Cubains savent faire plein de choses à la fois, tu vois. Et que ce soit musicalement ou ils ont fait des études, puisque les études sont gratos là-bas, tu vois. Et pendant ce temps-là, moi j'ai mon groupe, je quitte Malfrat Linguistique. C'est à ce moment-là que toi tu étais déjà là à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là que vous faites Opération Starflame, et qui fait qu'il y a eu un changement.
Ensuite,
et moi j'enregistre aussi sur Fada Onda Compile, ma première chanson avec Bienvenue. Vous vous enregistrez aussi derrière, tu te rappelles comment ça a été enregistré?
Très bien, ouais, dans la cave.
Dans le bazar, là. Et comme on pouvait, quoi, encore du bricolage, quoi. Et puis après, je fais mon album pendant le mois de congé, le break de congé avec les Cubains, qui n'est pas un break pour eux ni pour moi. Moi, je fais un album, j'enregistre avec Bienvenue. Et eux enregistrent l'album Emigrante. Et puis on repart en tournée. Et puis après, ça s'arrête parce que la maman me demande de revenir, tu vois. Elle a accouché, on a acheté une maison.
C'est une vie de ouf.
À un moment, je suis responsable. Je suis pas. Si j'étais hip-hop vraiment jusqu'au bout, comme je le suis maintenant, tu vois. J'aurais pas été même à l'accouchement de mes enfants. Et j'ai été pourtant, tu vois, parce que je suis responsable par rapport à ça.
C'est vrai que ça mobilise, les tournées, c'est un truc de fou, quoi.
Ouais, et après, c'est un trou temporel. Mm-hmm. Dès que tu rentres là-dedans, bah, tu ne vois plus l'heure, tu n'es plus malade.
Mais quand on t'écoute, on a vraiment l'impression que tu es dans un flux tout le temps de choses. Tu vois, en même temps, tu fais les soirées, en même temps, tu es DJ, tu produis l'album avec Bienvenue, etc. Donc, tu es vraiment impliqué à plein de niveaux. C'est quoi, toi, en DJ, ton inspiration qui te donne... C'est quoi qui te donne la pêche comme ça? C'est qui? C'est quel genre d'individu? Quel genre de référence?
Je t'avoue, j'y pensais tout à l'heure parce que j'étais en train de me demander si tu allais me demander quel DJ était mon DJ préféré, tu vois. Mais en fait, j'en ai plusieurs par génération, c'est un peu comme ça, tu vois, mm-hmm. même par époque, par décennie, on va dire. Mais la dernière fois que j'ai vu un DJ qui m'a explosé, c'était pas un DJ hip-hop, tu vois. C'est parce qu'il y en a de moins en moins. Maintenant, on appelle ça des push-buttons, tu vois. Mm-hmm. Il y a tout qui est synchronisé. Il n'y a plus vraiment des aventures ou des choses comme ça. Il faut vraiment... Et puis après, on nous appelle des puristes, mais j'aime pas trop ce mot-là, quoi. Mais c'est des gens qui amènent des choses en plus.
C'est quoi ta définition du DJ?
Ben, un DJ, pour moi, c'est justement quelqu'un qui, comme tu parlais tout à l'heure, par rapport aux instrus, tu vois, qui est là pour mettre en place quelque chose, quoi. C'était là avant les MC. Et puis les MC sont arrivés, les Master of Ceremony, et puis après, le DJ a fait que... Pour moi, c'est ça, le DJ, c'est comme un maître de cérémonie, mais au platine, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, j'ai été voir Mobb Deep il y a deux semaines à la Madeleine. Et ben, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un concert hip-hop comme ça, parce qu'il y avait un DJ. Ouais. Le DJ avait bien monté le bazar et c'était structuré. Je dis pas que c'était over-structuré, tu vois.
Ça, c'est le DJ dans sa forme d'accompagnement de show pour des rappeurs, mais le DJ de club, le DJ de soirée, c'est quoi pour toi la recette qui idéale?
Ben, le DJ de soirée, le DJ de club, déjà, c'est différent, tu vois.
Ah ouais?
Je trouve que c'est fort différent. Le DJ de club, j'en parlais tout à l'heure, depuis la génération Spotify, frère, les gens veulent entendre ce qu'ils connaissent.
Ce qu'il y a dans leur playlist.
Voilà. Tu vois, par exemple, des fois, on vient me demander des absurdités alors qu'ils savent que c'est des soirées hip-hop. Tu vois, les yeux d'Hélène, on m'a demandé, man, la meuf, elle était défoncée. Je lui ai dit, c'est quoi? Et puis j'ai
mais tu mixes dans des genres de soirées où il y a des gens qui demandent des chansons.
Non, c'est parce que le hip-hop est partout maintenant aussi, okay, tu vois, c'est différent. Okay. Mais je veux dire, le DJ de club, franchement, je les respecte à fond parce que ça doit être un dur métier. Moi, j'ai arrêté de mixer dans des clubs. Mm-hmm. Parce que je suis pas club, je suis hip-hop, je suis pas club, tu vois. Et faire dans les soirées, c'est différent, quoi. DJ de soirée, club, pour moi, c'est vraiment
différent. C'est important, tu crois, de séparer un peu les catégories de DJ?
C'est le peuple qui les a séparés, quoi. C'est le peuple qui a voulu ça, tu vois ce que je veux dire? Tu vas demander... La dernière fois, par exemple, j'ai été au Mondial, qui est une boîte où, tu vois, c'est un club, mais c'est un club où il y a eu du hip-hop aussi, tu vois.
Oui, bien sûr.
Et la dernière fois que j'ai été, c'était avec Irfan, qui est une personne qui est un vrai DJ aussi, c'est tu vois. Et c'était Kid Capri. Et c'était encore avec des vinyles. Il y avait 15 bacs de disques. Et les gens, ils bougeaient pas. Ils ont rien compris. Et pourtant, c'est un DJ qui, maintenant, encore à New York ou partout aux États-Unis, mixe et amène la vraie essence du DJing, c'est-à-dire une communication avec les gens, une communion avec la musique, une histoire. Tu vois ce que je veux dire?
Bah ouais. Tu l'as eu tôt, toi, le côté performance dans la façon dont tu mixais?
Ben, en fait, c'est parce que moi, je vais te dire la vérité, c'est mon côté germanique, quoi. Ma maman est germanique, tu vois, et donc, je peux pas être en retard. Je peux pas, je peux pas mélanger les périodes. Si, je le fais, tu vois. Des fois, pour m'amuser, je me dis, ouais, t'exagères, t'abuses, les gens, ils vont rien comprendre. Si, je peux pas mettre, par exemple, un truc de 89 avec un truc de 2008, tu vois. C'est pas possible.
Et pourtant, ça pourrait faire partie de ce que tu disais, là, la référence avec Grandmaster Flash, le côté aventure.
Mais c'est par exemple, j'ai vu une fois Afrika Bambaataa qui se faisait gueuler dessus.
Ouais.
Parce qu'il mettait des trucs house dans ses sets. Et il y a un mec qui est venu lui dire, c'était à une fête de Red Bull ou je sais pas quoi, tu vois. Et le mec est venu lui dire, et Afrika Bambaataa, il s'est énervé, il lui a dit, hey mec, maintenant tu vas arrêter de m'ennuyer. Moi, j'étais avant le hip-hop. Si je passe ça, c'est parce que le hip-hop, c'est fait de toutes les musiques.
C'est ça.
Tu vois ce que je veux dire? Moi, je mixe de la house, hein. Je kiffe la house.
En plus, historiquement, c'est lié aussi à une culture, une évolution DJing parallèle complètement au hip-hop.
Ouais, la séparation qu'on disait...
Avec Détroit, qui est une des scènes...
Je pense qu'il y a vraiment une différence entre des DJ de club et des DJ de house party ou des choses comme ça, tu vois, dans des concerts ou des choses comme ça. Parce que... maintenant, avec TikTok, frère... Il y a des gens, ils connaissent 10 secondes de la chanson.
C'est ça, quoi.
Et ils bougent seulement sur les 10 secondes. Tu t'imagines où on en est arrivé?
Alors on entend que tu parles de bac de disques et tout ça, je pense que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu te déplaces pour faire des soirées, tu viens avec au moins deux bacs de disques, ça pèse.
À ce temps-là, ouais, c'était comme ça, maintenant il y a Serato.
C'est très lourd. Donc il y a une évolution technologique, hormis ça, qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que tu penses que ça a apporté, toi, cette évolution justement où on passe à la dématérialisation de la musique ?
Franchement, si je pense comme Jazzy Jeff, tu vois, Jazzy Jeff qui est le DJ de Fresh Prince, bref, il disait que c'est pas le matériel qui fait le DJ, c'est le DJ qui fait le matériel. Tu peux avoir un téléphone et faire exploser les gens, ça part de la sélection d'abord. C'est comme quand tu fais la cuisine, si tu mets un ingrédient de trop ou trop peu, le goût il va pas être là. Quand tu mixes, c'est pareil. Ou quand tu fais un graffiti. Tu vois, peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu mets une mauvaise couleur et tu te dis après, pour finir, c'est pas cette couleur-là, j'aurais dû mettre cette couleur-là ou t'as le choix de le faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr, mais là, c'est un rapport plus moi avec moi, dans le sens où, enfin, en parlant avec le graffiti, mais là, tu vois, je trouve que quand même, il y a un côté où c'est vrai, maintenant, les gens, ils ont vraiment envie d'écouter juste ce qu'ils ont kiffé. Dans les dernières semaines, voire les derniers mois maximum, tu vois, vraiment, d'avoir le côté, le DJ, un bon DJ, c'est un gars qui est fresh, en fait, qui a vraiment les nouveautés, et qui sait aussi faire monter la sauce. Il y a une culture beaucoup du mash-up, maintenant.
Ouais, ouais.
Toi, est-ce que tu as déjà été dans ce côté-là, de faire des remixes pour le live, pour le live mixing, je parle ?
Mais je le fais avec mes platines, quoi. Je ne fais pas des... Tu vois, déjà, par exemple, quand je fais un set, je ne prépare jamais. J'ai toujours le premier et le dernier morceau, ou j'ai plusieurs premiers morceaux.
Tu te laisses emporter par la vibe.
Et je vois quel premier morceau je vais mettre par rapport à, justement, je viens toujours aussi avant pour écouter les DJ, ce que d'autres devraient faire aussi.
Ouais.
Parce que des fois, tu te retrouves en soirée où tu entends 15 fois le même morceau.
C'est clair.
Donc, à un moment, il faut quand même respecter les gens, même s'ils veulent l'entendre deux fois, c'est bien. J'ai déjà été dans des soirées à New York où ils mettaient 15 fois le même morceau, mais c'est parce qu'il y avait la sortie du morceau et que le morceau il était tellement hype que les gens pouvaient l'écouter 15 fois. Mais ici, on n'a pas cette culture-là.
Et là, tu es toujours team vinyle, CDJ ou contrôleur ?
Non, moi, je suis vinyle, mais Serato, quoi. Ça fait un moment, depuis que les boîtiers Serato sont sortis, un moment, quand on arrive à la cinquantaine, porter des bacs de disques, des platines... surtout qu'on n'a plus de soldats. Avant, on avait des soldats.
Ouais.
Tu vois, il y a toujours des gens qui nous accompagnaient et venaient.
Ça s'est perdu, ça, tu crois ?
Je sais pas. Il faut demander aux jeunes DJ maintenant s'ils vont avec leurs soldats. Ou alors, c'est peut-être des gens qui viennent juste, entre guillemets, plus tard, tu comprends que ces gens-là viennent. C'est peut-être le seul truc négatif que je veux dire, mais il y a des gens qui vont venir pour abuser de ta gentillesse. C'est-à-dire qu'ils vont être derrière toi parce que soit c'est hype, ou soit parce qu'il y a à boire gratos, ou soit parce que tu les fais rentrer gratos, tu vois.
Ouais.
Et là, c'est terminé. C'est pas des vrais frères, ça.
C'est un classique.
C'est un classique. Il y a toujours des gens qui grattent. C'est comme ça.
Est-ce que t'as des liens avec justement les jeunes DJ là, qui liégeois ?
Ouais, mais j'en ai. Par exemple, j'ai fait des ateliers justement dans les maisons des jeunes, et il y en a qui sont devenus DJ.
Ah ouais ?
Ouais.
Et qui font le qu'on peut retrouver en soirée et tout ?
Qui mixent justement en club. Et je leur avais dit ne mixe pas en club.
Ah.
Mais ils mixent en club, c'est pas grave, parce qu'ils veulent gagner de l'argent.
Ouais.
Même parce qu'aujourd'hui, c'est l'endroit principal où.
Mais je sais pas, mais les clubs, c'est terminé, frère. Franchement, ça fait longtemps que c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est c'est du réchauffement, quoi. Tu vois, c'est comme je voyais... Peut-être des fois, je pars dans d'autres sujets, tu vois, mais je voyais, par exemple, des DJ qui ont mon âge, tu vois, et qui attendent une nouveauté, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Dans la musique ?
Ouais, dans la musique en général. Parce que c'est souvent du réchauffé. Regarde là maintenant le hip-hop depuis 5 ans, on en parlait là tout à l'heure. Ben, je pense que c'est les mêmes boîtes à rythme, le même truc. Ce vocodeur qui a... Enfin non, l'autotune qui a sauvé quand même pas mal de choses. C'est ce qui a fait continuer le hip-hop maintenant. Mais à un moment, quand tu vois la réponse new-yorkaise, il n'y a plus d'autotune, ça.
Oui, c'est ça, ça change, mais ça restera. Mais après, le public, il s'est aussi ouvert sur d'autres musiques. Il y a d'autres mélanges. Le hip-hop, ça a toujours été un mélange, en fait. C'était un peu la liberté de faire ce qu'on veut à partir de souches culturelles qui sont propres. Puis il y a une diversification. La population est vachement jeune et aussi diverse en origine. Et il y a l'éclosion et l'explosion de l'afro. Nous, on a connu l'afrobeat, c'est pas du tout la même chose que l'afro qui est consommé maintenant, qui est un mélange de rythmique, mais en même temps sur des patterns plus électroniques, hip-hop, hybride, machin. On a toute l'explosion du rap, tu vois, en même temps mélodique, comme tu l'as dit, avec l'autotune, etc. Est-ce que finalement, en fait, Est-ce qu'il n'y a pas un DJ pour chaque public? Alors que moi, j'aurais dit qu'un DJ, je t'avais entendu dire ça, c'est qu'un DJ, par rapport à un rappeur, il n'a pas d'âge.
Ouais.
Il met des disques, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais par contre, j'ai l'impression qu'on a quand même une marche entre ce qu'un DJ qui a un grand background et qui, des fois, peut être déconnecté de ce qu'écoutent les jeunes, tu vois.
Moi.
Aussi. Ouais. N'arriverait pas à atteindre cette cible-là, alors que fondamentalement, peut-être qu'il faut se prendre la tête. Et en fait, se dire, tiens, il faut que je connaisse un peu ce qu'ils écoutent pour les amener après sur des, sur des bases plus... Enfin, leur ramener aussi de la culture,
Bien sûr.
Tu vois.
Non, mais moi, je fais partie des gens qui font de l'edutainment, tu vois. Moi, c'est de l'éducatif, entertainment, mais éducatif. Mais comment... Il y a une raison pour laquelle je n'écoute plus les nouveautés. Enfin, si j'écoute, mon fils, il écoute. Mais en fait, c'est plus fait par des DJs. Donc c'est immixable. Soit tu peux aller voir dans des soirées, soit tu mets des sirènes, ou alors déjà ils mixent en casque. Pour nous, c'est pas possible. C'est comme mélanger Adidas et Nike, je le dis souvent. Tu vois, nous, on peut pas faire ça. Nous, on est de l'époque où on ne mélangeait pas Adidas et Nike. Tu vois. Mais comment les DJ, là, maintenant, ils mixent plus, ils mixent en casque.
Ouais. Mais tu vois, parce que le truc est préparé à l'avance ou quoi?
Ben, c'est juste parce que s'ils ont un truc avec les BPM, ben, ils ont qu'à mettre le BPM de l'autre côté. C'est la machine qui fait. Moi, jamais je calcule ce que je fais. Je vais du plus 1 au plus 2, au plus 6, au plus 8, et c'est moi qui trouve la vitesse avec mon oreille. C'est pas la machine qui le fait, tu vois. Il y a pas longtemps.
Est-ce que je peux poser une question? Parce que je t'entends parler, mais je me dis, est-ce que quelque part, parce qu'on est dans le truc d'héritage, est-ce que c'est parce que il y a pas eu de transmission peut-être?
Ben pourtant on l'a fait, tu sais, on a été dans les maisons des jeunes et tous ces gens-là et tous les gens que j'ai appris à mixer, mais ça c'était il y a plus de 10 ans maintenant, tu vois. Et ben je leur ai appris à mixer avec mon background, c'est-à-dire avec des platines vinyles. Mais là, maintenant, je trouve que c'est ridicule, des fois, de faire des stages de DJing, entre guillemets, pour ceux qui veulent mixer avec les nouvelles plateformes. Parce que c'est la machine qui fait tout. Sauf la sélection, bien sûr, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, mais du coup, est-ce que ça ne demande pas plus de créativité, justement, pour se distinguer quelque part?
Ouais, c'est ça, mais ce sera toujours la sélection qui va faire que... C'est le contenu qui va faire que quelqu'un va sortir du lot. Je peux aller dans des soirées et voir des DJ, ils vont tous mettre la même chose. Le même style de musique, ça va être linéaire. Ils n'ont pas compris que des fois, la vie, c'est comme ça, tu vois. Ça monte, ça descend, on rigole, on pleure. L'époque de notre hip-hop, il y avait du hip-hop autant metal que du hip-hop soul. C'était funky, c'était plein de choses, quoi.
Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens aussi, comme tu le disais tout à l'heure, là, toi, quand tu arrives, tu prends la peine de venir un peu plus tôt pour écouter ce que les autres mixent,
bien sûr,
et comment ils le font, etc. Bref, est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un côté où... c'est très accessible d'avoir le matos pour mixer maintenant, tout le monde a un ordinateur, après il suffit d'acheter un contrôleur MIDI, de télécharger les sons en mauvaise qualité sur YouTube, faut pas le faire, mais bon, voilà, les gens le font, et surtout qu'il y a une culture du tuto qui fait que les gens sont très isolés, et donc du coup après ils partent mixer en soirée, bah, ils sont satisfaits d'eux-mêmes, sans se mettre un peu à... Comment dirais-je, un
à
petit
confronter,
peu à confronter aux autres, tu vois, ne fût-ce que par l'échange ou par l'écoute.
Bah, franchement, moi, ce que je leur conseille de faire comme moi, c'est-à-dire que quand ils vont mixer, bah, quand ils sortent de la soirée, ils se cotent, quoi. Moi, je me cote à chaque fois. Et je suis dégoûté quand je pars et que je n'ai pas su accrocher les gens. Ça arrive, hein, de plus en plus, entre guillemets, parce que les gens, c'est normal, des fois, je passe des chansons, ils n'étaient pas nés déjà, même 30 ans avant, ils n'étaient pas nés, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'il faut se remettre en question tout le temps, quoi.
Puis il y a une différence aussi, c'est que quand on voit le nombre de chansons qui sortent tous les vendredis maintenant, il y a ce fameux chiffre là qui dit qu'il y a autant de sorties en, je sais pas, en 2 mois qu'en en un an sur, en 89. Là. Est-ce qu'à un moment donné, ils n'ont pas tellement le choix qu'en fait, ils prennent tous les trucs qui ambiance, en fait, tu vois. Ils arrivent à faire des sets hyper renouvelés comme ça, plus facilement, et que ils ont moins le temps, étant donné qu'il y a une avalanche tout le temps, de se mettre sur une culture qui s'étend depuis plus de 40 ans maintenant.
Moi, j'ai une question à te poser. Tu crois pas que c'est comme les gens qui font semblant d'être sapés sur Zalando? Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils prennent ils se mettent sur Spotify, Spotify fait une liste, et puis après, je suis sûr qu'il y en a qui font ça. Moi, je connais des gens, ils n'achètent pas de fringues, ils achètent sur Zalando, ils se prennent en photo, ils font les influenceurs,
et ils renvoient.
Bah, le casting de vêtements maintenant, même pour les rappeurs.
Franchement, tu vois ce que je veux dire. C'est comme les tatoueurs, quand on parle avec Fabrice, il y a quelques semaines, il avait mis ça. Il avait dit, les influenceurs arrêter d'être tatoueurs, quoi. Mmh. À un moment, tu vois, c'est juste pour être à la mode ou se poser devant une voiture et se prendre en photo. C'est une way of life, tu vois, le hip-hop, c'est...
Tu penses comme... qu'il y a une génération de DJ comme ça qui n'est pas légitime, en fait ?
Ben, il y en a, ils vont être légitimes quand ils vont prendre des, pas des claques physiquement, mais des claques quand ils vont aller mixer et qu'ils vont se retrouver devant un vrai public qui va leur dire « Hey mec, vas-y, casse-toi parce que c'est mauvais ce que tu fais. Mm-hmm. » Ou tout le monde va se casser ou d'accord. La salle va se vider.
Mais ça, c'est quand même une minorité. Il y a quand même pas mal une relève ici liégeoise qui, quand même, ouais. Qui bouge pas mal, quoi.
Mais moi, je pense qu'il faut de la compétition pour qu'il y ait une relève, tu vois ce que je veux dire ? S'il n'y a pas de compétition, nous, on fait partie du hip-hop quand il y avait une compétition, que ce soit en DJing...
Mais ils sont peut-être pas en compétition avec nous, tu sais. Ils sont peut-être en compétition aussi entre eux, et ouais. Nous, on connaît pas non plus tous les bails.
Ouais. Mais moi, j'ai quand même l'impression que vous, c'était... La pratique était beaucoup plus collective, et que du coup, comme tu l'as dit, il y a plus de confrontation, et quand t'apprenais avec des autres, que ce soit le DJing ou même le rap. Et aujourd'hui, la pratique, c'est beaucoup plus individuel. C'est-à-dire que tu peux apprendre à mixer... avoir ton Instagram et petit à petit progresser mais comme ça.
C'est sarcastique ce que je veux dire, mais ils n'apprennent pas à mixer, frère. C'est la machine qui le fait. Aux États-Unis, ils appellent ça Christmas tree, mec. T'allumes, il y a plein de lumières, c'est tout. C'est comme ça.
Les LED.
Mais c'est négatif ce que je suis en train de dire, mais c'est justement pour que des gens voient ça, tu vois, et se disent, lui, il fait le malin. Eh ben, attends, je vais m'entraîner et quand je vais te voir, je vais te péter. Tu vois, c'est plus ça. Non, mais c'est la vérité.
Je voulais poser une question sur l'évolution du public. Parce que quand tu as commencé, le public n'avait pas forcément accès à tous les sons. Et aujourd'hui, nous, on est saturés grâce aux plateformes de streaming. Ouais. Toi, à l'époque, tu avais ce côté où tu éduquais le public, tu leur faisais découvrir des derniers sons. Comment toi, tu as vu l'évolution du public en soirée?
Dès que les filles sont arrivées, ça a changé déjà, tu vois. Et c'est quelque chose de positif, tu vois.
Il n'y avait pas de nana avant dans nos soirées.
Non, on appelait ça les soirées militaires, frère. tu vois, il y avait des gens qui râlaient à longueur de journée, on écoutait, mais on pouvait passer tout ce qu'on avait envie. C'est pas à cause des filles, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et puis après, ça a évolué. Moi, j'ai fait partie d'un groupe de Chippendales, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Il n'y avait que des meufs. Hein.
Ouais, dans le public, ouais.
Ouais, dans le public, il n'y avait que des meufs. Donc après, voilà. Après, c'est bien. Là, maintenant, par exemple, ça a fait évoluer le rap aussi. Il y a beaucoup de mecs qui font du rap maintenant et qui parlent de leurs problèmes entre mecs et meufs, tu vois. C'est pas vraiment un truc qui existait dans les années 80.
Non, c'est plus du rap d'état d'âme.
Ouais, c'est ça. C'était beaucoup plus politisé, quoi. Mais après, l'évolution du public, c'est ça. Tu sais pas où tu vas arriver. Il n'y a jamais eu vraiment un endroit comme aux États-Unis où il n'y a que du hip-hop, tu vois ce que je veux dire. On a toujours dû... s'adapter aux endroits où on était. C'est une adaptation perpétuelle. Tout le
temps. En parlant justement d'endroits, tout ça, est-ce que toi, tu as une salle ou un club ou un festival vraiment qui a marqué ton parcours et que tu te dis, je suis trop fier d'avoir joué là-bas
Ici à Liège, c'est la zone, de toute façon. Sans la zone, on n'existerait pas. Ça, c'est sûr.
Et dans le. On va dire, si on met le curseur plus loin
Le curseur plus loin. J'en ai tellement fait avec les Cubains que les seuls où je me rappelle, c'est. On a fait un stade à Porto ou à Lisbonne, je ne me rappelle plus.
C'est le truc qui est sur YouTube aussi, ça
Non, ça, c'est avant Shakira, ça. ouais, ça, c'est pour MTV. Ouais.
C'est incroyable, ça. C'est...
Mais c'était marrant, ça. Mais après, il y a d'autres. Par exemple, on fait la première partie de Lenny Kravitz. On a fait partie de la première partie de Jamiroquai en Autriche aussi. Ouais. C'était incroyable. Plein de bazars comme ça. Que tu te rends pas compte. Nous, on était tout le temps...
Et alors là, comme tu continues, c'est quoi, ton goal ultime que tu aimerais atteindre comme genre d'événement? T'aimerais juste être programmé où?
Je sais pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir de la gratitude. Qu'on commence à donner de la gratitude aux gens comme Miguan, tu vois, comme tous ceux qui ont fondé ce qui se passe. On ne demande pas, pas la pitié, mais de la gratitude, tu vois ce que je veux dire. Après, mon goal, moi, je veux mixer. Moi, ce que je veux,
c'est... T'aimerais bien, si tu pouvais choisir, si tu pouvais
j'aimerais
dire...
J'aimerais bien faire un boiler room, moi. Vraiment.
Okay. Nice.
Cool. J'ai envie de le faire parce que je regarde, ils en font des hip-hop, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Et ils en font, par exemple, à Londres, il y en a avec le DJ de La Soul, qui est incroyable. Et tu vois, les gens, ils s'en jaillent, quoi. C'est cool, ils boivent un verre. C'est pas vraiment, tu vois.
Ça, c'est cool, c'est sur ta wishlist, donc c'est cool. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je trouve que ça tirait bien, ce serait vraiment bien. Parce que tu sais, je pense que cette configuration-là tirait bien dans ce que tu as envie de transmettre aussi avec ta musique que tu mixes, quoi.
Ouais, mais c'est plus moi... c'est ce que je dis à mon fils, tu vois. Je lui dis, il faudrait que... Les jeunes commencent à aller voir aussi en arrière. Il n'y a pas que en avant, quoi. Il faut aller voir ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, grâce à Héritage, ils vont comprendre aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. C'est des initiatives comme ça qui permettent aussi d'expliquer un peu et de contextualiser, c'est cool quoi. Et alors on parlait justement de ce boiler room qui serait un but à atteindre. Est-ce que tu as aussi un pire souvenir de galère en soirée?
Ah ben oui, ça on en, j'en ai plein, mais lequel te dire franchement...
Un marrant.
Ouais, un marrant. Ouais. Que je me suis fait menotter devant tout un public au concert d'Orichas.
Ah ouais ?
Ah ouais, parce que j'ai voulu faire rentrer quelqu'un et j'avais l'autorisation et tout. Et là, comment là ?
Ça s'est mal passé quoi.
Bah, j'ai fait passer le mec et le mec, tu sais bien, on tombe toujours sur des gorilles là, des mecs de la sécurité. Ils ont pas voulu. Et ils ont pas voulu laisser passer. J'ai commencé à parler, j'ai amené la personne qui faisait tourner le groupe, tu vois, dans cet endroit là. Il a attrapé la meuf et il lui a fait mal.
Aïe.
Et donc il m'a menotté parce que j'ai voulu l'attraper. Et puis après, Yotou, elle l'a attrapé, l'a foutu dans l'eau et tout. Il me s'est fait menotter. Et tous les gens ont balancé tout ce qu'ils avaient sur le mec. Donc toute la scène était remplie.
Oh là là.
Et puis la guardia civile est arrivée. Ça, c'était le pire. C'était une scène flottante.
C'est un métier à risque, hein.
C'était une
DJ.
Scène flottante, frère, au nord de l'Espagne.
Ok.
Un truc de malade. Mais voilà, après, ça, c'est pas grave.
C'est la réalité du métier, les gars.
Après, on a montré notre derrière quand on est passé devant la guardia et tout.
Mais arrête.
Ah ouais, bien sûr.
C'est peut-être dans les archives, mais là, faut aller.
Ouais, je sais pas pourquoi je t'ai raconté celui-là, parce que celui-là, il était quand même...
comique, il est comique.
Il était marrant, ouais, c'est bon. Comique, mais il y en a eu des pires.
Et du coup, tu vois, c'est quand même un métier de la nuit, c'est un métier, enfin, tu l'as dit, tu vois, qui est assez contraignant. T'as dû revenir pour tes enfants, etc. Bon, on n'est pas trop libre. Est-ce que tu crois que c'est aussi un... Est-ce que c'est quelque chose pour lequel on peut vivre des soucis de santé, parfois de santé mentale aussi? Comment est-ce qu'on gère cette vie-là? Est-ce que c'est pas trop difficile
Moi, ce sera plutôt sentimental, quoi. Ça là, pour le moment, peut-être que ça va me rattraper, la vie que j'ai faite pendant 5 ans avec les Cubains, ou la vie hip-hop, parce que c'est pas facile d'évoluer dans un mouvement qui est entre guillemets marginalisé, tu vois, ou un truc comme ça. Parce qu'il y en a qui ont dépensé leur vie à ça, tu vois. Leur chômage, entre guillemets, ou leur CPS est passé dans un espoir de futur musical. On n'avait pas droit à des trucs, peut aller à la communauté
et du
française.
Du coup, ça a quel impact? Ça a impacté ta vie
C'est un impact psychologique. On a tous eu du spleen à un moment à cause de ça, tu vois. On s'est dit, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'ai bien fait de faire ci? Mais moi, c'est plus sentimental. Moi, la maman de mes enfants m'a quitté à cause de ma vie hip-hop.
Ok.
Je serais toujours avec elle si je n'avais pas été hip-hop.
D'accord.
Je suis sûr et certain.
Je
ne saurais pas à dire si j'avais fait autre chose, tu vois, je ne sais pas. Puisque c'est déjà vieux, j'avais 18 ans quand j'ai acheté mes platines.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça. Ça a un impact sur plein de gens.
Tout à fait. Et du coup, j'imagine que aussi d'un point de vue financier, c'est aussi une vie un peu comme les rappeurs, quoi. En fait, c'est une vie en dents de scie, quoi. On n'a pas.
Moi, je vis toujours comme ça. Là, pour le moment, je te dis la vérité, on vit une vie difficile.
Il y en a qui. C'est dur par rapport au DJing. Tu peux pas te baser sur le DJing.
Tu sais plus vivre du DJing là maintenant.
Bon, on a pu le faire à un moment donné.
Ben moi, je l'ai fait jusque avant le Covid. Et puis après le Covid, tout a changé, quoi.
C'est quoi qui a changé?
Je ne sais pas ce qui a changé. Pour plein de choses, il y a plein de choses qui ont changé depuis le Covid.
La façon dont les gens consomment les soirées, ils vont
est-ce qu'il y a moins d'établissements?
Je ne sais pas. Il y a plein de gens qui ont perdu leur avenir à cause de cette histoire du Covid, tu vois. Et moi, pendant le Covid, je t'avoue, j'ai beaucoup plus mixé parce qu'on faisait des soirées qu'on ne pouvait pas, tu vois. On s'enfermait à la Bad Station.
Mais arrête!
Mais non, mais c'est la vérité, gros. On ne pouvait pas sortir avant 8h du matin, donc tu rentrais dans un endroit. Ouais. Et puis après, tu faisais la fête là-bas. Parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Les flics passaient, tu te faisais arrêter, tu devais avoir un papier pour sortir.
Oui, on s'en rappelle.
Et donc, ça a fait évoluer les trucs. Et puis l'après, on a cru que ça allait recommencer convenablement. Et c'était une folie, tu vois. Je me rappelle, on a fait une super fly. Et c'était incroyable parce que les gens étaient enfin libérés de ce truc. Et puis après, là maintenant, ça avance. Et c'est par rapport au gap des générations.
Là maintenant, il y a eu un changement, tu dis.
Il y a un gap des générations qui fait que, comme tu disais, que, tu vois, par exemple, il y a des gens, ils font de la boom bap, mais c'est fait en 2025.
Ouais, c'est ça.
Et ils disent que c'est old school. C'est pas old school, c'est old school ALL. Et les gens qui font maintenant de la drill ou des trucs comme ça, les jeunes consomment ça. Donc quand t'arrives dans une soirée, t'es des fois considéré comme le vieux. Pas parce que t'as une barbe grise, parce que tu mets ce genre de choses. Tu peux même être jeune et passer des trucs comme ça. Mon fils, il écoute des trucs comme ça, c'est en train d'évoluer vers ça, tu vois.
Ouais, je crois aussi, tous les 10 ans, il y a un gap.
C'est pas si négatif que ça.
Je crois qu'il y a un besoin aussi pour les générations d'aller. Ça tombe bien avec justement l'Expo Héritage, ou même ici avec notre conversation, c'est de ramener un peu le truc ok, c'est parti dans des évolutions, avec la technologie, avec l'inventivité, avec de plus en plus d'idées, d'un point de vue mélodique, du chant, des choses comme ça, tu vois, qui ont amené le truc à ouvrir de plus en plus. Mais je crois que là, maintenant, avec le gap de génération, je pense qu'ils ont besoin aussi, et ils ont envie de revenir à des... à la base.
Ben, moi, c'est ce que je dis souvent. Je dis que la connaissance, c'est la puissance. C'est pas, tu vois, tu t'apprends toute ta vie. Jusqu'au dernier moment, t'apprends.
Ouais.
Et c'est ça qui est bien de l'être humain, c'est que ça évolue. Tu vois des nouvelles choses qui arrivent, mais elles sont masquées fort par tous ces trucs qu'on voit sur Insta, ou tu vois, tous les réels, ou tous ces trucs-là. Des fois, tu vois des trucs intéressants et tu te dis, ouais, c'est bien, ça a évolué. Tu vois, mais... c'est difficile maintenant, avec les réseaux sociaux. C'est...
est-ce que tu penses que ça a pris le dessus, ça, sur...
Non, mais il y a toujours une rébellion, c'est ce que je disais. Je ne peux pas commencer à juger ou critiquer la jeunesse maintenant de ce qu'ils écoutent et tout.
Justement.
Parce que c'est une rébellion contre ce qui se passe et ce qu'ils n'aiment pas, tu vois. Les cheveux longs, tu vois, il y a eu un moment...
Oui, tu as eu la tienne aussi, quoi.
Le lissage, tu vois, tous ces trucs-là... je ne peux pas commencer à juger. Si je dis à mon fils, il me râle dessus des fois quand je lui dis, excuse-moi de dire ça, mais je lui dis des fois, il écoute de la merde. Il me râle dessus, il me dit, et toi, ta génération, il n'y avait pas de la merde. Je dis, si, il y en avait, mais je l'accepte. Tu vois, il faut l'accepter, il faut aller voir avant, après, et il faut regarder devant. C'est comme ça.
Et en tant que liégeois, tu vois, on a reçu notamment les invités la fois passée. Il y a parfois un petit complexe d'infériorité quand on est liégeois, en tout cas par rapport aux Français ou par rapport aux Bruxellois. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi qui es parti à l'étranger? Est-ce que est-ce que tu as eu un regard différent après quand tu es revenu?
Ben, c'est toujours bien d'aller voir à autre part, parce que quand tu reviens, tu es content de revenir déjà souvent. Moi, je suis content de revenir en Belgique. Pourtant, j'ai envie de la quitter tout le temps, tu vois. Mais... ouais, il y a des autres mentalités. Mais le hip-hop, c'est universel maintenant. Nous, on a connu le hip-hop quand on connaissait le rap français, le rap allemand un tout petit peu, néerlandais. Moi, je vais souvent voir des concerts en Flandre. On va à Maastricht. Ils sont rough, rugged and raw, je peux le dire. Tu vois, ils sont dans le raw, quoi. Ils sont pas dans le bazar comme les francophones font, vraiment. Mais voilà, après, il faut toujours aller voir autre part. Et quand tu reviens changer et t'amènes, toi, ce que ça t'a apporté, quoi. Je sais pas, moi, j'ai toujours été... j'ai toujours été quelqu'un global, c'est-à-dire que je vis sur la planète Terre. Je suis belge, mais je vis sur la planète Terre. Après, comme disait Fourmi de la Zulu Nation, tu ne sais pas où tu vas arriver. Quand tu nais, tu ne demandes pas de naître là ou là. T'arrives, quoi.
Ils nous emmènent loin, quand même.
Ouais.
On voyageait déjà dans l'épisode 1 avec Sonar. On est carrément intergalactique.
C'est la vieillesse aussi. Je parle comme un vieux, quoi. C'est comme ça, après.
Bon, on va profiter de ta longue expérience aussi pour voir un peu si... moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est que tu as toujours eu un regard sur le paysage des DJ. Et on voit qu'il y a une évolution aussi en termes de genre. On voit que quand même, il y a plus de DJ filles aussi qui sont là. Est-ce que toi, tu penses que les choses évoluent vers plus d'égalité dans le DJing? D'ailleurs, toi, est-ce que tu as connu, dans tes débuts
des
DJ filles?
Oui, bien sûr. Oui, j'en ai connu, mais après, elles étaient...
C'est quoi les refs, par exemple? Moi, je
ne saurais plus te dire son nom, mais c'était une meuf de Bruxelles, là, comme ça, qui mixait... je crois que DJ Mystère ou un truc comme ça, ça fait longtemps. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps sur Insta. Elle a eu un enfant et tout, donc elle avait arrêté. C'est une Bruxelloise.
Il y a des nanas aussi, Luna.
Ouais, ouais. Mais Luna, c'est la dame qui est décédée.
Ouais,
ça.
Qui est décédée, ouais, là, ouais. Qui était sur Fun Radio.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça, je parle moi des DJ hip-hop R&B, tu vois.
Ouais.
Mais moi, je trouve que c'est bien. Mais de toute façon, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les platines, et ça, il faut poser la question aux autres DJ, que nous, en fait, les platines, c'est comme un shield, tu vois. C'est un truc pour se protéger. Moi, si je suis derrière les platines, c'est parce que je suis pas capable d'être à un micro, tu vois.
Pourtant, tu l'as fait.
Oui, je l'ai fait, mais...
Je l'ai vu, ouais, je l'ai entendu. Ça.
Mais c'est parce que j'étais jeune et que je buvais de la bière. Mais après, je saurais pas écrire, moi, je suis nul à fond. Mais je veux dire, tu vois, donc après, il y a déjà un truc, oui, c'est une fille, mais elle est aussi
Sample
protégée.
Sample étonnard, comme jouer de la guitare, je me rappelle. Mais tu avais ça dans les paroles.
Ouais. Tu vois, mais nous, on est protégés par ça, quoi, tu vois. Mais après, c'est bien, parce qu'elles amènent leur univers.
Et t'en vois de plus en plus aussi, tu constates?
Ouais, il faut. Et après, il faut voir ce qu'elles amènent, tu vois. C'est souvent super chill et tout, tu vois. Après, il y a des meufs aussi qui se déshabillent aussi, tu vois. Moi, je suis pas trop... Quand je vois des trucs, par exemple, des Boiler Room aussi, je parlais des Boiler Room, il y a des DJ meufs qui mettent leur attribut en avant et qui font plus de la danse que du DJing. Je suis difficile avec ça, mais c'est parce que c'est
toi, ma discipline. Toi, tes critères, c'est vraiment purement artistique, platine, mix, etc.
Mec, quand tu danses, t'es pas obligé de regarder tout le temps DJ. Tu vas pour écouter de la musique, déjà. Si tu vas juste regarder et mettre ton téléphone pendant 2 heures...
À la base, le DJ, c'est quand même dans le hip-hop, lui, le héros. Le MC, il est là pour mettre en avant
ça
le
vient
DJ.
De ça vient de la disco, quoi, aussi, tu vois.
Carrément.
Les héros DJ viennent de la disco. Et après, ça a évolué.
T'as quand même un côté flamboyant dès le départ, tu vois. Donc, ouais, du coup, quand tu vois les nanas qui se mettent, comme tu dis, dans des tenues de sport,
côté performance,
tu vois, il y a un côté performance, il y a le côté flamboyant, et puis c'est en marge de ça. Et puis,
j'avais pas pensé à ça, mais c'est respectable ce que tu dis, ouais, franchement. Après, mais voilà. Après, moi, je suis plus dans le résultat.
Complètement, oui, c'est ça que je perçois de toi. Mmh. Bah, je veux parler de ça parce qu'on devait recevoir Laura, qui ont fait un big up et bon rétablissement.
Ouais.
Parce qu'elle se bat aussi, elle, pour mettre en avant les filles, que ce soit dans le rap, que ce soit dans le mix, dans le DJing. Mmh. Et c'est vrai que la particularité, je pense, chez elle, dans les filles aussi qui mixent, c'est que c'est plus global. Ou même d'autres DJ, ils sont plus ce qu'on appelle global, c'est-à-dire ça met en même temps de la main piano, le truc d'Afrique du Sud, de la drum and bass, un peu de house, du hip-hop, des remixes qui mélangent justement ces différents horizons. Ouais, ouais. Et ça construit complètement autre chose. J'ai l'impression que c'est un peu un truc plus qui mélange le boulot de DJ, c'est un peu un boulot de producteur aussi, qui va aller non plus diguer dans, disons, les dernières nouveautés, mais les dernières expérimentations, les derniers trucs hybrides pour essayer de faire monter la température dans les soirées, quoi. Tu vois, toi, est-ce que t'as un peu des coups de cœur du moment par rapport à cette nouvelle génération de DJ, des gens que tu nous recommandes?
Je t'avoue, moi, quand je vais sur YouTube, c'est pour regarder, pour me documenter par rapport à ce qui se passait avant.
Ouais.
Et sinon, je regarde des DJ sets, mais quand je regarde par exemple des DJ sets, c'est des DJ sets house. Parce que j'adore la house, parce qu'il n'y a pas de parole dessus, entre guillemets, tu vois. Et c'est ça, le problème avec le hip-hop, c'est que, par rapport aux meufs, tu vois, justement, c'est que c'est tellement... on regarde toujours les États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis, ça a toujours été un mouvement de macho, hein. Les meufs, d'ailleurs, elles sont obligées de se montrer à poil, tu vois, des bazars comme ça. C'est stéréotypé. Et c'est ça qui a empêché l'évolution, justement, dans le hip-hop, des meufs, tu vois. Parce qu'il y avait cette barrière-là de machisme et de comment, je sais pas expliquer, il faudra en discuter plus longtemps par rapport à ça, tu vois, mais...
Il y a une évolution des mentalités, ça sert à ça aussi. Moi, quand j'écoutais du rap au départ, je pense que j'écoutais du rap, peu importe que ce soit une fille qui chante ou un garçon qui chante. Quand j'allais à la médiathèque, je voyais Queen Latifah, MC Light ou quoi.
Mais regarde,
c'était une nouveauté, en fait.
Mais regarde,
c'était...
les discours de Queen Latifah et tout, il y a quand même des textes dedans.
Who you calling a bitch?
Voilà, ouais, tu vois, grave. Ça parle aux mecs et leur dire à un moment, il faut arrêter de déconner, mais c'est toujours à l'heure actuelle, en 2025.
Mais ça fait partie de leur struggle, ça fait partie de leur combat. Voilà.
Mais ça c'est dû...
Comme dans le club, c'est aussi là où elles mènent le combat. C'est-à-dire, quand elles prennent les platines, c'est aussi amener un truc, une vibe où les filles se sont safe aussi dans les espaces. Et comme tu dis, combattre ce machisme qui est inhérent aussi, malheureusement, à la culture. Parce que des fois, c'est aussi des cultures qui sont issues des ghettos où justement, il y a une relation conflictuelle entre les genres. Et je pense que la musique, elle sert à ça aussi. Elle sert à rapprocher les gens et à briser des barrières et rétablir la communication.
Exact, ouais.
Donc là, c'est...
Et parfois, tu parles de femmes à poil, mais c'est aussi une réappropriation de leur corps, quoi, tu vois.
Ouais,
après,
on peut
en discuter d'autres fois, mais...
Elles ont le droit de le faire, bien sûr. Voilà. Moi, je ne critique pas qu'elles le fassent, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est vu par des gens qui vont critiquer...
C'est ça, ou alors des gens qui vont simplifier le truc et qui vont ramener ça à un côté...
Comme stéréotyper la musique dans laquelle on est, en 2025, c'est toujours stéréotypé. Hein.
On est d'accord.
Et plus que d'accord, plus qu'avant. Mais je pouvais parler des femmes comme je pouvais parler des gens, tu vois. Que je pourrais pas des gens, excuse-moi, des hommes, pardon. Du genre masculin, il y a des mecs, ils font n'importe quoi... Et
on est bien d'accord, mais par contre, ça doit faire l'objet d'une autre émission.
Bien sûr, c'est ça, c'est pour aborder toutes les thématiques où justement le rap fait par des filles, ou le DJing aussi fait par des filles, ça, c'est aussi intéressant à voir. Mais ici, nous, dans les tendances et coups de cœur actuels, je crois que tu peux aussi aller diguer sur Internet des trucs comme le DVM Show aussi, qui apporte pas mal de DJ qui viennent mixer en mode un peu boiler room, c'est filmé, c'est intéressant. Et puis ici, sur Liège, il y a Laura, il y a Julie,
par exemple,
Libra Romera, qui mixe tout à l'heure, là où tu tu vas mixer aussi, ouais, ouais. Tu vas voir, elle va mixer aussi. Mm-hmm. Il y a Baby, enfin, il y en a pas mal. Puis il y a les mecs de Host No Mob, là, c'est un collectif. Mm-hmm. Qui font des soirées, il y a plusieurs DJ, il y a Cozy, il y a plein de choses.
Moi, je t'avoue, si je ne connais pas, c'est parce que maintenant, j'habite plus en ville. Avant, je sortais tout le temps, mais c'est trop facile d'habiter en ville, tu sors tout le temps, et puis après, tu fais pas autre chose.
Bah ouais. Mais en fait, moi, j'ai envie de te dire ça aussi, parce que c'est intéressant. Je pense que le cœur du truc, c'est que tu dis, quand t'arrives, tu viens voir comment ça mixe et tout, et je t'encourage vraiment à venir voir même ces jeunes DJ-là pour même capter la vibe et tout. Et c'est important parce que c'est en les voyant. Je pense que toi, tu as énormément de choses aussi à leur transmettre. Mais je pense que toi, comme moi, notre génération à nous, c'est à nous faire le pas vers eux.
Ouais, bien sûr, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais c'est... Moi, je suis complètement d'accord par rapport à ça, mais je ne demande que moi être surpris. Moi, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie d'aller voir quelqu'un qui... Je me dis, purée, franchement, il y a eu de la réflexion avant de le faire. Il y a du style, il y a des skills, il y a tout ce qu'il faut pour faire que ça va bouger, quoi. Et ça va être respectable, tu vois ce que je veux dire?
C'est ça.
Parce que le respect, ça se gagne, ça se...
Et puis surtout,
c'est
l'esprit de la fête. Et à Liège, on sait faire la fête. Et donc, aujourd'hui, c'est vendredi 28, le jour de cette émission. Et c'est le jour, justement, du vernissage de l'Expo Héritage où Cozy, Libra Romera et toi, vous allez mixer. Donc, on invite tout le monde à venir nous rejoindre à partir de 19h à l'Expo qui a lieu à l'ancienne bibliothèque des Chiroux. Pour découvrir 40 ans de l'histoire du rap avec des photos, d'écouter du son et voilà, et puis continuer à partager toute cette passion qui nous anime, toi, moi et puis les nouvelles générations de maintenant. Donc voilà, je pense que c'est une belle façon de conclure, Martha.
Tout à fait, j'en profite pour dire qu'on sera là aussi avec 48FM, hein, puisque Régis, tu seras là avec New Wave ce soir.
Ouais, voilà, on va inviter quelques artistes et on sait jamais, peut-être freestyle, ça s'est mis en dernière minute, il y a peut-être quelqu'un qui va faire des freestyles, etc. Enfin, les rappeurs, artistes, DJ, n'hésitez pas à venir à notre table pour partager vos expériences. Voilà, ça fait plaisir. Nous, la nouvelle génération, donc on va découvrir plein de trucs. Donc on a vraiment hâte d'être à l'expo, ça va être cool.
Et ben voilà, merci DJ Sonar. Et
longue vie.
Et puis on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Et tu mixes quand même pas mal hein, sur Liège. Hein. T'as quand même des trucs au potolé, t'as quand même des trucs un peu résidents.
C'est ma deuxième maison maintenant.
Voilà, tu vois, donc on peut te retrouver là-bas.
Ouais, je peux dire que le 8 mars, il y a une soirée à l'Escale à Grasse-Ologne avec mon bro Kazam. On fait des soirées old school R&B, hip-hop, 90s 2000 quoi. Parce qu'il y a un public pour ça et que les gens veulent entendre ça aussi, donc on fait ça.
Eh ben merci à tous et puis rendez-vous au prochain épisode de Héritage. À bientôt.